Allô, madame. Est-ce que je pourrais vous demander, depuis combien de temps habitez-vous à Orléans?
3 ans.
3 ans?
Oui, à peine,
oui.
Enfin, il y a 3 ans. Quoi.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Ah, ça, c'est les fonctions de mon mari, ça.
Ah.
C'est administratif.
Ah bon?
C'est administratif.
Et vous vous plaisez à Orléans?
Très bien.
Ah, oui.
Oui, c'est une région que j'aime bien.
Oui.
C'est agréable, on est à côté de la Touraine.
Oui.
La Sologne est belle. Oui, c'est une belle région par ici, quand même.
Et est-ce que vous comptez rester à Orléans?
Ah, ça, alors là...
Ça dépend encore du travail de votre mari, sans doute.
Oui, ça
oui.
Vient de l'administration et ça ne peut vraiment pas...
Oui.
On ne peut pas répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Pas possible. Demain, je serai peut-être partie ou prête à partir et je peux rester encore 6 ans. Je ne sais pas.
Oui, je ça, je sais pas. Oui. Est-ce que je peux...
J'aimerais rester.
Ah oui.
Bon. J'aimerais rester. Mais...
On nous a dit, n'est-ce pas, ailleurs, que la ville d'Orléans est une ville assez froide, mais je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, puisque vous êtes...
Il y a quelques années, oui. C'était une ville de garnison, Orléans,
oui.
C'était une ville aristocratique. Effectivement, c'était un milieu très froid.
Ah oui.
Mais enfin, maintenant, vous savez, il y a quand même des éléments jeunes. Moi, je trouve que Orléans a terriblement changé.
Ah,
j'ai connu Orléans, je venais ici, moi j'avais 10 ans, à peu près. Effectivement, à ce moment-là, c'était vraiment la ville de garnison. Mais maintenant, je ne sais pas. Non, je n'ai pas cette impression.
Bon.
Vous savez, on a beaucoup, enfin, on a vu pas mal de régions. On est allé dans le Soissonnais, on a été à Sedan, partout par là. Partout où on passe, on vous dit, les gens sont froids.
Ah oui.
Bon.
Non, c'est une question de...
Ça, c'est une question d'adaptation,
d'acclimatation.
Nous, on a un caractère avec mon mari, je crois qu'on s'acclimate assez bien.
Bon.
Oui, on prend le meilleur des choses et on laisse le reste, puis c'est tout.
Et est-ce que vous avez travaillé avant de vous marier, madame?
Ah oui, je travaillais dans les postes.
Hein?
Dans les postes.
Ah, dans les postes,
dans
oui.
Les postes.
Alors, en quoi est-ce que votre travail consistait?
Ah, alors là, à la fin, j'étais, comment vous dirais-je, receveur des postes dans une petite localité.
Oui.
J'avais un bureau de poste, quoi.
Ah bon?
Pas très important parce que j'étais pas très vieille à l'époque. Mais enfin, c'était ça.
Est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de travail typique?
Ah,
assez brièvement, d'ailleurs.
Oh, alors là, ça remonte pas. Ça dépendait parce que vous aviez l'arrivée du courrier qui des fois était à 6 heures le matin.
Ah, oui.
Alors 6 heures, après il fallait s'occuper des facteurs, tout ce qui était administratif, n'est-ce pas, les bureaux, jusque vers 11h30, midi.
Oui.
Puis après l'après-midi, il y avait les guichets, il y avait toutes ces choses administratives à faire.
Ah bon?
Mais c'était agréable.
Oui. Et qu'est-ce qui comptait le plus pour vous? Dans votre travail.
Pour moi, ce que j'ai aimé dans ce travail, c'était le contact avec la clientèle, disons.
Oui.
Je n'aimais pas ce qui était très administratif à rester derrière les bureaux. Il me fallait un contact humain, c'était ça.
Oui.
Il me fallait un contact humain. J'ai un tempérament, je crois, à ça.
Ah bon.
Voilà. C'est une question de tempérament.
Oui, en effet. Et si vous n'aviez pas été employé de poste, est-ce qu'il y a un métier que vous auriez plutôt faire?
Ça dépend de mes possibilités.
Okay.
Je ne sais pas, mes possibilités, je ne sais pas, oui, il y a beaucoup de choses. M'occuper des enfants, je crois que j'aurais aimé ça.
Oui.
Je crois que j'aurais aimé cette partie de périculture ou de choses comme ça.
Oui.
Bon, ça, c'est toujours pareil, je vais vous dire, c'est une question de tempérament.
Oui, bien sûr.
Oh, ma douce, me casse pas mon micro. Oh, c'est très joli, oui.
On voit maintenant, n'est-ce pas, de plus en plus de femmes mariées travaillent. Est-ce que, personnellement, vous êtes contre, oui?
Oui, j'estime que un homme devrait pouvoir suffire au ménage et que la femme reste à son foyer. Je trouve que c'est beaucoup plus normal.
Ah oui.
À mon avis. Dans la mesure des choses.
Oui, surtout avec les enfants, évidemment.
Ouais. Mais... Il en faut des femmes qui travaillent.
Oui.
Il en faut, bien sûr. Mais enfin, je trouve que dans bien des situations, il serait nécessaire que la femme reste à son foyer. On verrait peut-être moins de choses que l'on voit avec les jeunes. C'est possible, si la maman était au foyer.
J'hésite à vous demander ce que vous faites maintenant de votre temps libre, parce que je vois que vous avez assez à faire avec les enfants, mais dans le temps, qu'est-ce que vous avez fait?
Moi, ce que j'aimerais, si j'avais beaucoup de temps, j'aimerais écouter de la musique et j'aimerais lire.
Ah oui.
Voilà. Alors, me promener avec les enfants,
oui. Et le samedi, le dimanche, alors?
Le dimanche, nous partons souvent à la campagne, nous aimons beaucoup la forêt, toutes ces choses.
Oui.
On recherche à s'aérer. C'est surtout ça.
Et comment avez-vous passé le dimanche dernier, dimanche de Pâques?
Le dimanche de Pâques, ça tombe très mal. J'avais une petite fille qui était fatiguée. On est resté toute la journée à la maison. Alors là c'était tout de suite
dommage.
Clos. Mais le lundi, on est allé chez des amis. On a passé une très bonne journée.
Et que ferez-vous pendant les vacances d'été?
Nous allons au bord de la mer avec les enfants.
Saint-Jean.
Relax. Saint-Jean-de-Mont, dans la Vendée.
Ah, dans la Vendée.
Dans la Vendée,
je connais pas cette région, mais...
Du côté des Sables d'Olonne, à côté des
Sables
d'Olonne.
Ah oui, je connais ça.
Un petit peu aussi des Sables d'Olonne.
Un petit peu, oui. Très gentil. C'est très gentil, surtout ce que nous recherchons quand nous partons à la mer, c'est de trouver un coin calme et pas trop fréquenté, pas trop bruyant. C'est surtout ça le principal.
Oui.
Il faut vraiment arriver à retrouver du calme. Pour tout le monde.
Et si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
Si j'avais 2 heures?
Oui.
Bon.
Oui, évidemment, ce sont des questions.
Si, par exemple, m'occuper, je sais pas, il y a des œuvres à s'occuper, des choses comme ça.
Oui.
Je crois que c'est ça, je m'en suis beaucoup occupée avant que je me marie. Je crois que si j'avais vraiment du temps libre, je le referais.
Ah oui.
Notamment pour les vieux, des choses comme ça. Voir des amis.
Bon, puisque j'avais des enfants, je vais vous poser des questions sur l'éducation, l'enseignement, n'est-ce pas?
Alors ça, je peux te repenser peut-être, hein? Non? Les enfants, l'éducation, vas-y.
Non, mais ça dépend des jeunes, genre de questions.
Oui.
Bon, t'es fatigué.
Non, fatigué, c'est agréable. Non, oui, ça va aller.
Mais j'allais vous demander, à votre avis, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
Surtout aux enfants?
Oui.
Moi, je voudrais qu'ils soient plus sévères, qu'ils me les serrent encore plus. Voilà. Je trouve qu'on n'est pas assez sévère, il n'y a pas assez de discipline.
Et pourquoi vous dites ça?
Parce que je trouve que les enfants sont durs, qu'ils sont beaucoup plus durs que nous, on ne l'était dans le temps. Enfin, dans le temps qui n'est pas très loin quand même, mais enfin, je trouve que la discipline est plus relâchée.
Ah.
Vais chercher les défis.
Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école, puisqu'on a lu beaucoup là-dessus, n'est-ce pas?
Oui, là, il y a pas mal de choses, pas mal d'avis qui ont été... variable. En ce qui me concerne, j'ai fait des études classiques,
oui.
Donc à base de latin. Je ne m'en porte pas plus mal. J'estime que pour la langue française, le latin est quand même une base sérieuse qu'il est regrettable d'abandonner. Bien que ce soit une langue qui n'est pas pratiquée, pour celui qui veut faire des études classiques, il est indispensable. Le latin, à mon sens, des études littéraires, au moins, le latin, est indispensable. C'est la source du français, de l'italien, de l'espagnol. Il y a pas mal. Et partant du latin, on arrive à se débrouiller. Évidemment, pour un anglais, le latin présente certainement moins d'importance.
Quand même.
Sur le plan culturel, sur le plan de la formation, à ce moment-là, ça a aussi une importance marquée, indépendamment de l'aspect linguistique du problème.
Oui.
Il y a l'aspect culturel aussi qu'il faut prendre en considération. Alors là, c'est valable aussi bien pour les Anglais que les Français, les Allemands ou autres.
Oui. Et alors, dans quelle matière aimeriez-vous que vos enfants soient forts?
Ben, tout dépend de la destination qui se donne.
Ah. Oui.
Et évidemment, pour un scientifique, des études classiques ne sont pas très indiquées. Il vaut mieux des études plus poussées sur les sciences exactes, les mathématiques et autres. Je pense que dans l'état actuel des choses, mais l'orientation vers la recherche, il est bon de pousser sur les sciences exactes, les mathématiques notamment.
Oui.
Je pense que c'est ça le problème numéro un.
Oui. Qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Il y a plusieurs éléments. Oui. Il y a le courage propre de l'individu d'abord.
D'accord.
Hein? Et puis il y a ces facultés d'assimilation aussi, la gymnastique cérébrale à laquelle il veut se livrer, ou il peut se livrer, sont deux choses qui vont de pair, le courage et puis la gymnastique, ça se retrouve, la gymnastique cérébrale s'entend, ça se retrouve, et à mon sens c'est une des choses qui sont indispensable à la réussite des études ou dont le manque est à l'origine de mauvaises études. Je pense que le problème est là, c'est une question non pas de pas tellement de capacité de l'individu, mais de volonté.
Et puis il y a aussi le rôle des parents, je suppose, qui exerce quelque influence.
Oui, dans la mesure où les études sont surveillées, sont suivies, si vous voulez. Et encore que, avec l'évolution de l'enseignement actuel, que ce soit en France ou en Angleterre, ça doit être le même, les parents sont, à partir du moment où les enfants atteignent un certain niveau dans la scolarité, surtout dans l'enseignement secondaire, vous savez, les parents sont vite dépassés. Hein. Surtout en dans les mathématiques notamment ou autres. L'enseignement qui est dispensé maintenant en mathématiques en seconde, ben c'est ce qu'on faisait dans les mathématiques élémentaires il y a 20 ans. Alors on est vite débordé.
Oui. Alors jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études en moyenne?
Si on veut leur donner un bagage, un petit bagage qui ne vaut pas grand-chose, il faut aller au moins jusqu'au brevet.
Oui, c'est-à-dire
ça fait 15-16 ans.
16 ans, oui.
Après,
l'orientation.
Il y a de l'orientation, ou alors il y a l'enseignement technique qui peut prendre le relais.
Et est-ce que vous êtes... est-ce que vous croyez que c'est la même chose pour les garçons et les jeunes filles?
Moi je trouve que c'est plus important pour un garçon que pour une jeune fille. Je crois, moi.
Oui.
Ah. Je crois parce que quand même un homme, c'est le chef, ça restera toujours...
Oui.
Ça rejoint un petit peu la question que vous posiez tout à l'heure, de savoir si la femme doit rester chez elle ou travailler.
Oui, mais enfin, on peut mettre un bagage dans les mains d'une jeune fille. Ça peut toujours lui servir, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie.
Bien sûr.
Enfin, pour moi, personnellement, qui est un garçon et deux filles, je préfère quand même choisir que mon garçon arrive à quelque chose parce qu'il sera un jour chef de famille. Les filles, c'est quand même moins important.
Oh.
Oui, quand même, dans un sens. Un de douce.
Oui. Je ne sais pas, peut-être que je viendrai un peu plus tard, ça dépend de l'heure, n'est-ce pas, évidemment. Mais pour revenir un moment à la ville d'Orléans, est-ce que, d'après vous, on fait assez pour les habitants à Orléans?
À quel point de vue
Je laisse la question assez vague, délibérément, n'est-ce pas, exprès, parce que... Mais,
il y a pas mal de problèmes qui peuvent être soulevés sur le plan de l'administration d'une ville comme Orléans. Il y a le problème de l'habitation. De ce côté-là, il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Dans ce sens-là, il y a une promotion de la ville aussi du fait de la création, il y a 2 ans maintenant, de l'Université d'Orléans.
Et à la source.
À la source, ce qui a entraîné la poussée comme un champignon d'une véritable deuxième ville. Il y a aussi le fait que Orléans se trouve quand même à 120 km de Paris.
Oui.
C'est donc maintenant de la grande banlieue.
Oui.
Avec des moyens de transport rapides.
Oui.
Puisque quand on prend le train dans le temps état, actuel, je parle des moyens ferroviaires actuels, en une heure, vous embarquez à la gare d'Orléans en une heure, à une heure donnée, et une heure après, vous êtes rendu à pied d'heure à Paris, en plein centre de Paris. Et alors, quand il y aura ce fameux aérotrain dont on parle, et là, il paraît que les relations de Paris à Orléans se feront en 20 minutes, une demi-heure grand maximum. Alors évidemment, tout ça, ça apporte quand même... pour l'immédiat, un petit peu de mieux-être pour la population, et dans le futur, ça devrait quand même contribuer à améliorer le sort de l'agglomération orléanaise et de ses habitants, puisque plus les transports seront faciles, plus il y aura une décentralisation en provenance de Paris qui ne peut se faire qu'au bénéfice du commerce, donc au bénéfice commun. Quoi.
Oui, mais on parle de faire d'Orléans centre régional, n'est-ce pas, un centre régional?
Ah ben c'est une capitale régionale, Orléans.
Oui.
Déjà, dans le cadre de la régionalisation dont on parle beaucoup en ce moment, Orléans est prévu comme une capitale régionale. D'ailleurs, le préfet du Loiret est également préfet de la région centre, qui couvre le Loiret, donc le Cher, le Loiret-Cher.
Et puis, c'est tout.
Et non, pas l'Indre-et-Loire. Mais si, l'Indre-et-Loire, si, l'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire aussi.
Oui.
Et c'est un petit peu dans cet esprit-là, je pense que l'université a été montée ici il y a 2 ans.
Oui. Et en effet, on a beaucoup parlé des événements du mai dernier, n'est-ce pas?
Oui.
Moi, j'étais en France en ce moment, j'étais déjà rentré. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passait?
Ou ici à Orléans?
Si vous voulez.
Bah, ici, ça a été relativement calme.
Oui, ça
pourrait être quand même. C'est parti comme à Paris, d'ailleurs. L'agitation qu'il y a eu est partie du milieu étudiant. Enfin, milieu étudiant qui a été. Le premier, si vous voulez, à bouger, je ne dis pas que ce soit les étudiants eux-mêmes qui aient provoqué ce mouvement, il y a eu certainement des éléments étrangers qui sont infiltrés dans le milieu étudiant. En fait, c'est parti de là et ça a dégénéré sur le plan politique, parce que sur le plan revendicatif du monde ouvrier, personne ne se plaignait, l'activité était... satisfaisante, et on ne voyait pas, d'ailleurs ça a été la surprise de voir cette émeute, ou tout au moins cette flambée, si vous voulez, brutale, et qui a fait quand même des dégâts assez considérables, dont on paye les conséquences maintenant, sur le plan financier, sur le plan monétaire. À l'origine, ça a été un mouvement uniquement politique, qui était vraisemblablement, à mon sens, dirigé contre le régime actuel.
Oui. Mais il me semble quand même que les étudiants ont quelque chose à se plaindre, n'est-ce pas? Et de quoi se plaindre, quand même?
Ils se sont plaints, ils n'ont pas toujours eu tort. Ils se sont plaints de... la mauvaise organisation, si vous voulez, de l'enseignement français. D'ailleurs, ce qui a fait que hâté les réformes.
Surtout ce manque de contact avec les professeurs.
Oui, c'est ça.
C'était trop tranché. Il y avait trop de... Il n'y avait pas assez de liens, si vous voulez, entre l'enseignant et l'enseigné.
Oui.
Et c'est ça ce qui approchait.
Une culture qui était trop grande.
Et alors le fait aussi que les examens qui décident d'une carrière sont basés sur
une
épreuve, si vous voulez, ou enfin un sujet par épreuve, qui risque de détruire tout le travail d'une année. Ça, de ce côté-là, il faut reconnaître que le problème n'est pas facile à résoudre. Enfin, il est quand même assez troublant, si vous voulez, de risquer toute une carrière sur une simple question qui peut vous être posée, que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Alors que vous pouvez très bien connaître ce qui n'enlève rien à la valeur de l'individu, qui peut très bien avoir des connaissances aussi larges que n'importe quel autre, mais qui peut avoir la malchance de tomber sur une question qu'il ne connaît pas. Mais ça, je pense qu'en Angleterre, le problème doit être identique sur le plan de la conception des examens.
Oui, en effet. Certainement, à mon université, nous avons eu des problèmes.
Oui.
Identique.
Et c'est un problème, ça fait un petit peu tache d'huile ce mouvement, puisque partout, que ce soit en Italie, en Espagne, les étudiants ont bougé, même aux États-Unis. Oui. C'est peut-être un microbe, si je puis dire, qui s'est promené, qui a traversé un petit peu partout.
Oh, oui. Eh bien, est-ce que les différences entre les milieux sociaux sont très marquées à Orléans? Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour l'étranger à saisir exactement.
Non, ça a été plus marqué que ça l'est du fait que c'était à l'origine Orléans. À l'origine, était une ville de garnison, donc. Avec beaucoup hors garnison et garnison de cavalerie. Or, la cavalerie, dans les temps, a circulé. Les officiers de cavalerie étaient tous des gens de la noblesse. Alors, à ce moment-là, évidemment, il y avait une coupure marquée entre ces milieux militaires, si vous voulez, enfin ces milieux d'officiers militaires, et puis la population orléanaise traditionnelle.
Je vais vous offrir un whisky, monsieur, quelque chose.
Oh, madame, c'est bien gentil, mais...
Pourquoi pas? C'est un scotch que tu as?
Ça me fera plaisir, oui, merci.
C'est du scotch? Parce que monsieur peut très bien ne pas aimer le scotch, enfin...
Ou le bonbon. Un apéritif français?
Eh bien, puisque...
Comme vous voudrez. Ah, comme vous voudrez, c'est comme vous voudrez. Parce que je ne vous garantis pas que le whisky, c'est d'origine écossaise. Hein. Alors, cette différence, maintenant,
c'est...
Oui, les produits d'Écosse, en tout cas. Ça a l'air d'être livré.
Oui, c'est livré. Le long jump.
Oui, je disais donc que cette démarcation, si vous voulez, entre les classes, s'est atténuée du fait de... des brassages de population qui ont eu lieu avec l'amélioration des moyens de transport, la prolifération des véhicules automobiles, tout ça, ça a entraîné, si vous voulez, des contacts plus fréquents entre les individus, que ce soit les milieux agricoles de la Beauce ou les milieux citadins, si vous voulez. Parce que ça faisait quand même trois blocs. Il y avait les agriculteurs, les officiers et l'habitant traditionnel. Et tout ça, ça s'est remué avec les brassages, le brassage résultant non seulement des contacts internes, mais également la transplantation, si vous voulez, de gens qui naissent pour le travail, comme moi par exemple. Ça favorise. Et ça, c'est un problème qui doit se retrouver un phénomène qui doit se retrouver un petit peu partout, ça.
Oui, en effet. Alors, de nos jours, à quoi est-ce qu'on reconnaît ces différences, si vous voulez, entre les gens des différents milieux? C'est pas facile.
C'est pas facile, non, mais enfin, il y a quand même des marques. Ça se voit au train de vie que mènent les gens.
Ah, oui.
Évidemment, le train de vie, c'est le reflet direct des possibilités financières. Et automatiquement, ça se... vu sur ce plan-là, la hiérarchie est toujours marquée, mais ça n'est plus, si vous voulez, ça n'est plus une lutte de classe ou de prestige comme c'était dans le temps. Dans le passé, c'est maintenant, il est devenu une... C'est une question de finance, purement et simplement. Hein. Et de possibilité de dépenser et de vivre. Ça, le train de ville, chacun le mène en fonction de son portefeuille. Hein.
Vous me direz, monsieur, s'il vous plaît.
Merci, madame. Alors, vous pensez que maintenant, on peut facilement passer d'une classe à l'autre?
Vu sur le plan passer d'une classe pécuniaire, on va dire, enfin, améliorer son train de vie.
Oui, évidemment.
Facilement, non, mais ça implique un effort un petit peu particulier de l'individu. Il a des possibilités de promotion sociale, indiscutable, avec la formation professionnelle, soit dans l'enseignement, soit au sein même des entreprises. Soit même au sein des entreprises, ils ont la possibilité d'améliorer leur situation et d'accéder à des postes de maîtrise, sinon des postes de cadre supérieur.
Ah. Oui, pour résoudre enfin, il est vrai que les différences entre les classes ont tendance à diminuer.
Oui.
Oui.
Il y a un nivellement qui se fait, si vous voulez, mais un nivellement par la base. Ce n'est pas tellement le haut, la hiérarchie qui descend. C'est plutôt le bas de l'échelle sociale qui a tendance à remonter, à se hisser, si vous voulez, à essayer de se hisser au niveau des classes supérieures. Alors évidemment, il y a un écrasement, si vous voulez, de l'échelle sociale qui se fait. Je ne veux pas dire pour autant que tout le monde soit heureux de son sort, il s'en fout beaucoup. Sans quoi nous, on ne connaîtrait pas les grèves et autres mouvements de revendication, mais enfin, il y a quand même une amélioration incontestable de ce côté-là.
Je ne sais pas si vous vous intéressez beaucoup à la politique, monsieur, mais j'allais vous demander que, ou plutôt, c'est à madame que je devrais demander.
Ah ben demandez, oui, elle va vous répondre.
C'est un sujet tabou, ça.
Non. Enfin, ce que je voulais savoir, c'est tout simplement, lorsqu'on vote, lorsque vous votez, n'est-ce pas, pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui?
Oh, alors là. Ça, franchement, alors là, la politique, c'est un sujet que j'aime pas beaucoup débattre.
Il y a une chose, ce qu'on attend de lui, c'est surtout qu'il tienne des promesses électorales.
Mais oui, mais il les tienne. De toute façon, il faut se dire une chose, il y a toujours de belles promesses, mais c'est pas toujours tenu.
Oui, et pour tout le monde. Je crois que c'est la même chose.
Et vous savez, je crois que c'est pour tout le monde. Ça, alors là, de très belles paroles, on parle très bien, mais après, voilà, oui. On attend.
Oui.
Alors bien sûr, on attend tout. Disons qu'on attend tout de lui. C'est tout. Mais moi, la politique, franchement, je vois ça de loin quand même.
Il y a une chose que chez nous est difficile à comprendre, puisque nous avons un système électoral.
C'est différent.
Je ne comprends pas exactement. Dans les élections nationales, pourquoi il y a toujours deux tours?
Alors, attends, je vais te redonner ça parce que. Alors,
je ne reste pas longtemps.
Non, je vous en prie, mais ça, alors là, la politique, de ça.
Oui. Mais ça, c'est une question d'enseignement.
Deux tours, c'est parce que, en principe, les élus doivent être désignés à la majorité, c'est-à-dire la moitié, au moins plus une voix. Évidemment, cette majorité était assez délicate à réunir, et il faut quand même bien arriver à désigner le vainqueur de la compétition, si je puis dire. Alors c'est pourquoi on a recours à un deuxième tour, ou alors là, c'est celui qui a le plus de voix qui l'emporte.
Ah oui. Alors, comment est-ce qu'on décide son vote la seconde fois?
Comment décide la part de l'électeur?
Oui.
Bon, ben l'électeur, il a ses opinions propres, il les maintient. Évidemment, il y a, dans le second tour, il y a des manœuvres de parti, si vous voulez. Vous avez certains partis qui est mieux placé qu'un autre, le moins placé peut se désister pour que ce soit deux partis sympathisants. Le moins favorisé peut se désister en faveur de l'autre. Ça peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais en principe, l'électeur qui a voté d'une manière, c'est bien rare qu'il change d'opinion, à mon avis, entre le premier et le second tour.
Et quelle est la différence, pensez-vous, entre le droite et le gauche?
Différence de l'idée politique? Non, ou le... d'objectif, si vous voulez.
Oui.
Vous savez, la gauche, je prends une grosse expérience politique, mais enfin, la gauche, à mon avis, a toujours été systématiquement contre les propositions qui peuvent être faites. D'où qu'elles viennent, d'ailleurs. Mm-hmm. Quant à la droite, actuellement, c'est un petit peu inconditionnel.
Oui.
Pour qu'une chambre, ça c'est valable, je pense, c'est pas de la politique nationale, mais c'est valable sur le plan international, pour qu'une chambre soit gouvernable, il faut au moins qu'il y ait trois opinions qui se manifestent. Une gauche, une droite et un centre. Sans quoi, on arrivera toujours à des mésententes et même des désaccords.
Enfin, le système chez nous, avec deux grands partis, c'est beaucoup plus facile, peut-être.
Oui, ah oui, mais alors là, vous avez...
Parti conservateur, parti travailliste,
oui, et... Oui. D'accord, oui, mais enfin...
Il y a les conseils du parti libéral, quand même.
Le grand défaut, c'est en France, tout au moins, c'est la prolifération des partis politiques. Il y en a beaucoup de trop. Il y en a beaucoup, si vous voulez, dans les partis de droite, si vous voulez, c'est valable dans les partis de gauche aussi. Ils ont certaines idées communes, mais il y a des points sur lesquels ils sont divergents. Et à partir de ce moment-là, ça entraîne l'éclatement. Et la prolifération des partis. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, l'électeur, lui, se trouve devant une position un petit peu délicate. Hein, parce qu'il se dit, voyons.
Oh oui.
Alors que chez vous, en Angleterre, avec vos deux partis, il est plus facile de se faire une opinion.
Oui.
C'est peut-être pas pour ça que votre chambre soit plus gouvernable que.
Oui.
Que c'est vrai que le régime n'est pas tout à fait le même. Nous avons un régime parlementaire. Alors, qu'en Angleterre, c'est encore c'est une monarchie parlementaire, si l'on veut.
Oui, mais le pouvoir de la monarchie est rien, en effet.
Oui, bah ça, d'ailleurs, c'est vu de l'extérieur. Toutes les monarchies maintenant. La monarchie par elle-même n'a présent plus rien sur le plan du gouvernement. Alors, sur le plan du gouvernement lui-même, sur le plan de la gestion, si vous voulez, du pays. Prenez la Belgique, le problème est le même. En Italie, il n'y en a plus. En Espagne, il n'y en a plus non plus. Enfin, partout, c'était la même chose.
Oui, c'est la même chose.
Oui, mais la famille royale est encore plus démocratique dans les pays nordiques que chez nous.
vous croyez?
Oui, oui, d'accord. Oui, ça, d'accord. Mais, sur le plan, si vous voulez, de la conduction, de la direction du pays, ils n'ont certainement pas plus d'influence que n'en a la reine d'Angleterre.
Je crois qu'elle n'a pas son mot à dire du tout. Si, peut-être quand même.
Si, vraisemblablement, mais enfin, à titre de consultation.
Oui, c'est ça, oui. Enfin, vous avez une belle souffrance, c'est déjà ça. C'est bien agréable. Donc, vous voyez, c'est une époque que je regrette, moi, ça. Cette époque de la royauté, c'est curieux.
Oui.
C'est curieux. Il y a quelque chose je trouve qui s'en va. Et c'est regrettable.
C'est le drôle.
En laissant ce qui est à côté, etc. Vous ne trouvez pas?
Peut-être.
C'est une époque qui meurt, qui disparaît, c'est regrettable. Moi, j'aimerais revenir en arrière, vous voyez, moi.
Oui, évidemment. Pas oublier que les Français ont fait la révolution de 1789 justement pour supprimer la,
oui. On touche pas.
La monarchie,
ça brûle.
La royauté tout en moi.
Ah oui, c'est mon opinion en moi, c'est pas forcément que ce soit
tout. Oui, non, mais l'influence, vu sur le plan politique, l'influence d'un monarque, quel qu'il soit, est bien diminuée par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années.
Oui.
Enfin, il y a quelques années, et même quelques siècles.
Et il y a assez grand nombre de choses malheureuses qui disparaissent en même temps.
C'est ce que je vous dis, c'est ça, oui. Il y a tout un faste, quoi.
Oui. Alors, pour changer un peu, madame, et pour faire un petit... Mm. Pour faire rire, peut-être, je vais vous poser une question.
Si je pouvais répondre.
Oh oui, j'en suis sûr.
Ah.
Vous allez rire sans doute, mais je voudrais bien savoir comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous.
Alors je ne répondrai pas sans casser les œufs parce que vous les cassez. Hein. vous voulez la recette? Bon.
Ah.
Mais mon mari, vous savez, est très bon cuisinier, il peut vous répondre. Parce qu'il sait faire la cuisine.
Vas-y,
hein.
Vas-y.
Ah, voilà, une omelette. Bien mousseuse, vous l'aimez comment?
Bien.
Oh, c'est comme vous le faites, vous.
Bon, alors comment je fais, moi? Alors, je casse donc mes œufs dans un saladier et j'ajoute un peu d'eau.
Oui.
Hein, et je bats assez longtemps de façon à ce qu'elle soit bien mousseuse.
Avec une fourchette?
Non, j'ai un petit fouet, moi.
Oui.
Ah, moi j'ai un petit fouet. J'ai mes petites habitudes. Et puis alors, dans une... comment dirais-je? C'est une casserole. Une poêle. Je mets du beurre, je la fais au beurre, moi pas à l'huile. C'est tout à fait différent. Alors, j'attends que mon beurre soit brun, pas cuit. Je jette ma omelette et puis je remue et j'attends qu'elle prenne. Alors, on peut le faire avec des fines herbes, on peut le faire avec des pommes de terre qui sont déjà cuites, avec des champignons, avec des tomates.
Des pointes d'asperges.
Des pointes d'asperges.
Du fromage.
Non,
du jambon, non.
Ah, oui, non, mais
oui, du jambon, oui. Mais du fromage, non.
Jambon fumé, c'est bon.
Ah oui, jambon fumé, mais pas du fromage, alors là, non. Voilà.
C'est plutôt le soufflé.
Ah ben, le soufflé, c'est différent. Oui. Alors là, c'est différent. Alors là, non, non, le soufflé, il faut une béchamel, il faut tout un tas de choses. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
Merci bien, madame.
Non, mais je vous en prie.
Maintenant, la deuxième partie. Est-ce que vous avez encore quelque temps?
Oui, je vous en prie.
Parce que... Oui, mais peut-être que les enfants ont
fait... Ils
sont en vacances pour l'instant.
Alors, ce sont des questions dont je vois bien, assez bien la portée. Sans doute, vous aussi, mais... Faut le faire quand même. Je vais vous demander, madame, est-ce que vous avez chez vous des dictionnaires?
Ah oui.
Oui.
Oui, beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me donner les titres?
Bon, alors on a le Larousse.
Le
sûr.
Petit, le grand,
le
grand.
Le Larousse, il y en a même trois dictionnaires. Il y a la trois dictionnaires Larousse.
Okay. Oui.
On a tous les quillets.
C'est une encyclopédie.
Ça. Bah oui, mais enfin.
Oui.
Les quillets.
Ça peut être
l'encyclopédie quillet.
Oui, mais ils sont quand même très bons. Avaler la tâche, je ne sais pas si on les demande.
Ils sont pour français.
Le Larousse, c'est un seul volume, n'est-ce pas? Le
Larousse, oui, oui,
oui, oui. Et le Quillet, c'est en deux, je crois.
Non, quatre, là.
Quatre, ah oui.
Quatre.
Et puis après ça, vous avez des dictionnaires anglais,
oh, français.
Ah, oui, français,
anglais,
latin,
anglais, allemand.
Espagnol.
Oui.
Espagnol aussi, oui. Latin. Oui. J'ai une amie qui est espagnole, qui est mariée avec un anglais,
oui,
et qui est professeur de russe en Allemagne.
Ah bon?
C'est très compliqué. Oui. D'ailleurs, je l'ai vu l'autre jour à ces petits jeunes gens qui étaient venus pour ça. Il me pose la question, cet anglais, il voudrait venir exercer en France. Ils ne savent pas où s'adresser. Ils m'ont demandé la marche à suivre. Moi, je ne sais pas.
C'est difficile. Parce que on n'obtient pas facilement un permis de travail en France.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut que je leur réponde?
Qu'est-ce qu'il veut faire?
Ben, il voudrait être professeur dans les langues,
anglais, il parle le français, je crois,
il
aussi.
Il parle le français, l'anglais, oui, le russe.
Il pourrait...
Et l'allemand.
Et l'allemand.
Il pourrait venir pendant un an pour être assistant dans une école française, un lycée. Il pourrait peut-être demander un poste lecteur à une université française. Ça, pour une an, peut-être deux ans, c'est à peu,
oui,
près.
Mais alors, il faut qu'il écrive.
En général, les choses s'arrangent entre les ministères nationaux, autrement, entre les universités réciproques, n'est-ce pas?
Oui.
Il a sans doute qu'il n'a pas pu, oui, obtenir ce qu'il voulait.
Oui, il a peut-être pas cherché.
Ah oui, enfin, je lui répondrai, oui, parce que je ne savais pas exactement.
Oui, il faudrait qu'il bosse avec le ministère de l'Éducation nationale en anglais.
Oui, je pense que vous...
Autrement, il y a des écoles privées, sans doute, en France.
Ah oui,
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 bien. Les enfants sont, oui, en école privée, moi. Oui.
Oui.
Oui,
oui.
Enfin,
oui. Et à revenir au sujet des dictionnaires, où est-ce que vous les gardez en général? C'est-à-dire dans
la bibliothèque,
salon, bibliothèque, oui, dans la... et puis dans les chambres, enfin,
oui,
dans les... où, là où on travaille.
Presque partout, enfin.
Il y en a partout, oui.
Oui.
C'est vrai, il y en a partout.
Oui.
Il y en a partout.
Oui. Parce que je suppose que les enfants travaillent dans la chambre,
ben,
oui,
ah,
oui,
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 oui, bon.
Papa.
Partout où il y en a besoin.
À quelle occasion est-ce que vous les avez eus? À quelle occasion? Depuis quand, c'est-à-dire?
Depuis 16 ans qu'on est mariés, il y a déjà un moment.
Oui, oui. Oui.
Moi, j'en ai toujours eu un.
Ah.
Là, je l'ai eu un aussi, puis je l'ai eu deux.
Ah oui, ça, ce sont des bouquins qu'on achète tout de suite.
Oui. On les achète au magasin, quelque part.
Non, en librairie, oui.
On n'avait pas hérité les dictionnaires, quelquefois ça arrive. On hérite.
Ah non, voilà, non.
Non,
non.
Oui.
Non, je suis.
Oui. Alors, depuis longtemps, en tout cas,
ah oui,
ça suffit. Oui. Et qui s'en sert le plus souvent, maintenant, je suppose que ce...
Ben maintenant, c'est lui,
oui,
c'est l'étudiant.
Oui. Je m'en sers de toi, je m'en sers de toi.
Enfin, l'étudiant, oui, oui, enfin, beaucoup lire, l'étudiant.
Oui. Et vous, madame?
Ça m'arrive, moi,
oui,
des fois, des choses.
Oui.
Une faute, que je ne... un mot que je ne sais, que je doute, j'ai recours au dictionnaire.
Oui.
C'est normal.
Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois?
Eh bien, ce matin.
Ah.
Oui, pour une faute d'orthographe que j'avais cru faire et que je n'avais pas fait d'ailleurs.
Ah.
C'est vrai?
Ah.
Le verbe s'avérer. J'avais mis avec un S apostrophe et je me suis demandé,
ah,
si c'était vraiment ça.
C'est bien.
J'avais fait une lettre dans la semaine d'avant et je me suis demandé si j'avais fait une faute.
Alors, quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent? Ce sont... question d'orthographe ou sens ou...
Oui, orthographe, sens,
oui,
c'est,
oui,
le problème.
Oui. Et est-ce que vous possédez un livre sur l'art de parler, l'art d'écrire ou les difficultés de la langue française, etc.?
Non, alors
comme
c'est
ça?
Non.
Non,
c'est absolument pas.
Ou un guide savoir-vivre?
Non.
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 On n'en a pas besoin.
Si, peut-être.
Oh, si, oui,
si,
il y a certainement.
Si,
il y a toujours,
non,
il y a toujours
ça,
à apprendre.
Vous voyez, si, mais je fais venir beaucoup de livres, mais oui, ce genre de livre-là, jusqu'ici, ça ne m'a pas. Non, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Hein. J'ai un mari qui me.
Et...
qui me donne parce que des fois, je ne l'ai pas.
Alors, vous trouvez que c'est utile quand même?
Oui, oui.
Oui.
Oui. Enfin, pour l'instant, j'ai préféré acheter des livres de littérature, des choses comme
ah
ça.
Oui. Est-ce que vous faites des mots croisés?
Mon mari,
mm-hmm,
beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Vous non, madame?
Je n'ai ni le temps, ni la patience, ni le pouvoir. Je suis obligée de rechercher. Mon mari, oui.
Et, j'ai déjà demandé à votre mari, mais je vais maintenant vous poser la même question. Pensez-vous qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Oui, je pense.
Oui.
Moi, je pense. Oui, oui.
Pourquoi?
je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas fait de latin et je le regrette parce que je pense que c'est une bonne base.
Bon.
Oui. Vraiment.
Et que pensez-vous du franglais, madame?
Je ne suis jamais allée en Angleterre. Je voudrais bien
le franglais.
Le franglais.
Je n'ai pas compris.
Ah.
Ah. Alors expliquez-nous.
Vous savez bien ce que c'est, n'est-ce pas? C'est
quand on parle de faire du shopping, tu sais ce que c'est?
Oui, c'est ça, le snack, le pressing, le
snack,
oui, le tarmo, n'est-ce pas, le sweater, tout ça. Alors, vous êtes pour, contre ou indifférente?
Indifférente,
oui,
mais enfin, bon, je ne sais pas quoi répondre.
En tout cas, vous n'avez
pas... Indifférente, non, c'est non. Pas ça. On n'est jamais indifférent de quelque chose, quand même. Je ne sais pas.
Enfin, il y a des moments où je pense que pour quelqu'un qui n'a pas fait de... qui n'a pas de connaissance de l'anglais, certains... même sans avoir une connaissance bien approfondie, certains mots peuvent choquer. Certains mots de franglais... fondrait sur l'oreille, on peut se demander ce que ça veut dire.
Oui. Vous ne trouvez pas que c'est une dégradation de la langue française, quand même?
C'est une... si. une dégradation, c'est pas le mot.
Oh non.
Ce n'est pas le mot, mais... c'est une question de peut-être de snobisme, plus exactement, de la part des gens.
Oui, hein. Oui, parce qu'on peut pas être indifférent, mais enfin...
Oui.
Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Franchement. Oh.
Oui.
Hein, pas
d'inconvénients.
Hein. Non, c'est parce que... le snobisme ne me plaît pas, absolument pas, mais à côté de ça... Ben,
oui, ça à mon sens, il y a très certainement une question de snobisme.
D'employés, c'est un...
Oui, parce que... oui, de les employés.
Oui,
de les employés.
De les employés, parce que... vu le... tout au moins le snobisme de la part de certains, parce que ça fait bien de connaître deux ou trois mots d'anglais, quoi.
Oui.
Hein, même si on n'est pas alors... capable de demander, comme vous disiez tout à l'heure, pas capable de demander un timbre-poste.
Oui, mais ça, quand on ne connaît pas quelque chose, on reste sur ses bases et tout,
c'est
tout.
On va
chercher plus loin.
Est-ce qu'il y a des différences, selon vous, dans la... façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui.
Oui,
oui.
Oui.
Oui. Oui. Si, il y en a.
Oui,
j'ai dit
oui, moi.
Oui. Et sont grandes ou...
grandes.
Vous parlez du langage par lui-même ou de l'élocution?
Les deux, je crois. Façon de parler, n'est-ce pas?
Oui, mais façon de parler, ça peut très bien viser l'élocution
oui.
Et le langage.
Oui, d'accord.
Vous me direz que, par exemple, quand vous prenez les milieux agricoles, il y a des différences très marquées.
Oui. Mais c'est pas une question d'accent, c'est pas ça.
Non, c'est une question, même sur le plan du vocabulaire.
Ah oui.
C'est pas une question d'accent. Il y a des manières de s'exprimer qui sont assez variables suivant les milieux. Mais là aussi, ça tend à se... à s'atténuer. On en revient toujours à ce problème du brassage des populations qui est favorable à l'évolution de l'individu, si vous voulez.
Alors, selon vous, est-ce que les gens parlent de mieux en mieux, de plus en plus mal ou sans changement?
Oh, de plus en plus mal, sûrement.
Ah oui?
Non.
Oh.
Oh non.
Vous êtes pessimiste, non?
Non.
Écoutez, alors là, vous embêtez parce que si vous parlez, par exemple, des jeunes qui poussent, là, je crois que...
Oui. Oui.
Les jeunes, alors.
Oui, oui, oui. Oui, je crois. C'est bien dommage.
Alors, de quoi ce changement, oh, de quoi cela vient-il?
Je pense que c'est une base de français qui est mauvaise chez les jeunes.
Oui.
Hein, parce qu'on voit par exemple des gosses qui font maintenant des fautes d'orthographe ou des choses comme ça, c'est inadmissible. Mm. Écoutez, on me disait l'autre jour, on parlait, ça n'a rien à voir. Par exemple, un passage de permis de conduire. Ben, elle me disait qu'il y avait des jeunes, des étudiants, qui avaient des façons de s'exprimer, que c'était vraiment lamentable. Qui n'étaient pas fichus de faire des phrases constructives et qui soient valables. Ils manient un français qui est vraiment décousu, qui ne ressemble à rien. Mm-hmm. Et c'est lamentable. C'est lamentable.
Oui.
Je sais bien que la langue française est une langue qui est difficile. Enfin,
elle
est
riche, quoi.
Oui.
Difficile, oui, mais enfin...
Elle ne doit pas être difficile pour les Français.
Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, difficile pour...
Pour les étrangers, si, je crois.
Pour un étranger de quelque nationalité soit-il qui apprend le français, ça, je conçois que...
Oui, c'est difficile avec ces règles de grammaire. C'est dur. Tout ça, c'est quand même assez compliqué pour vous.
Mais pour le français, ça il devrait
plus
être
facile à écrire que de parler quand même, je crois.
Ah ben ça, soyez tranquille, nous en sommes là aussi pour vis-à-vis de la langue anglaise, par exemple, plus facile à écrire qu'à parler. Hein. Ça c'est le problème de tout étranger qui s'exprime en une langue qui n'est pas la sienne.
Ah oui.
Pour l'échange standard d'enfants, je crois que ça leur fait du bien.
Et ça, le problème, c'est la question que vous évoquiez tout à fait au début, en me disant tout à l'heure que vous aviez connu dans vos universités des étudiants qui s'exprimaient, enfin qui écrivaient très bien le français, qui lisaient très bien le français, qui ne pouvaient pas demander, qui ne pouvaient pas s'exprimer correctement. Là, c'est une... C'est une question là c'est une question de brassage, d'échanges internationaux.
Oui.
Il y a que ça. Moi, je sais bien que au lendemain de la guerre, oui, j'en ai perdu pas mal, mais au lendemain de la guerre, on avait l'occasion, au moment de la libération, oui, d'avoir des contacts beaucoup plus fréquents que maintenant avec les troupes américaines ou les troupes anglaises. Ça facilitait grandement les choses sur le plan de... Non, des relations, non, c'est pas sur le plan des relations, mais sur le plan de l'assimilation de la langue. La langue parlée, on s'entend. La langue écrite, le problème est tout différent.
Alors, parmi vos connaissances, madame, quelle est la personne qui parle le mieux le français, c'est-à-dire dans la profession, si vous...
Mon mari.
Ah bon?
Ah oui, ça n'y a pas de problème. Ah, écoute, tout soit honnête. Honnête, c'est vrai.
Alors, y a-t-il en France un organisme qui décide, un organisme officiel, c'est-à-dire qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
L'Académie française, qui est le seul juge,
français, oui.
Hein, qui revise le dictionnaire,
oui,
régulièrement. Enfin,
c'est pas toujours d'ailleurs très bon. Il y a des mots d'argent qui mettent maintenant, c'est pas toujours très heureux.
Oui, ce sont des mots d'argot qui sont entrés dans les mœurs.
Quand même. Tais-toi, tu vas faire bobo.
Alors, vous trouvez que c'est très utile quand même,
cet
organisme.
C'est même nécessaire.
Oui.
Ah oui, ça.
Bah, il faut sauvegarder le patrimoine quand même. Ça en est un patrimoine.
Oui. Remarquez que nous n'avons pas chez nous un tel organisme quand même.
Oui, bien sûr. Non, mais je parle du patrimoine linguistique. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui. Alors, croyez-vous qu'il faut obliger les journalistes, les speakers, la télé, la radio à employer un bon français?
Ah oui.
Ah oui?
Ah oui, parce qu'ils ne sont pas toujours très riches.
Il y a des choses qui vous font hérisser les cheveux.
Toujours à la télévision, parce que c'est toujours à la télévision.
Je sais pas.
Oh la pauvre.
Ça fait dresser les cheveux sur la tête quand on entend des mots comme ça, c'est terrible. Oui, parce que, écoutez, on demande quand même à ces gens-là d'avoir une formation quand même qui soit acceptable.
Oui.
Mais le dodo, c'est quoi?
Oui. Alors, aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est enseignée aussi bien, ou mieux, ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Non,
puisque vous parliez des jeunes tout à l'heure.
Oui. Non, les méthodes d'enseignement n'ont pas varié très certainement.
Ah.
La grammaire, vous savez, reste ce qu'elle est.
Oui.
C'est elle qui a le moins... qui évolue, n'a pas évolué, ou elle évolue le moins. Il n'y a que le vocabulaire qui puisse évoluer. Et là, on en revient un petit peu au problème que nous évoquions tout à l'heure, de la volonté ou de la capacité de l'individu à vouloir apprendre.
Ah oui.
Parce que je suis persuadé que, à l'époque où il y avait encore malheureusement des illettrés en France, c'était pas lointain, ils parlaient mieux le français que certaines personnes qui savent lire et écrire maintenant.
Oui, en effet, oui.
Et ça, j'ai l'impression que ce qui manque surtout chez les individus, c'est la volonté de se perfectionner, si vous voulez, même dans sa propre langue, au moyen de la lecture. La lecture aussi bien au point de vue au point de vue vocabulaire, au point de vue style, indépendamment de la formation culturelle, de l'aspect culturel du problème, de l'intérêt qu'il peut retirer à ce point de vue-là. Et les gens maintenant, les jeunes notamment, ne veulent plus lire sinon des dessins, des bandes dessinées ou des choses comme ça. Ou alors là, vous trouvez un français bien souvent déplorable. Les bandes dessinées qui bien souvent sont éditées à l'étranger.
Oui.
Hein, traduites en français, vraisemblablement à l'étranger aussi, alors avec des fautes d'orthographe à partir de...
Mais vous savez qu'on traduit maintenant les livres d'Astérix en anglais.
Ah bon?
Ah oui?
Mais je ne les ai jamais lus, moi. Nous, on les a tous ici.
Si. Moi, j'aime bien, mais oui.
Mon mari les a tous lus, mais enfin... oui. Ah bon, ça, je ne savais pas que...
Mais je ne vois pas quand on pourrait les traduire, en effet. Surtout Astérix chez les Bretons. Formidable, ça.
Traduit en anglais, oui, mais ça doit perdre. J'ai l'impression que ça doit perdre de sa saveur un petit peu, parce que en français il y a des jeux de mots très fréquents qui ne doivent pas être facilement traductibles en anglais, par exemple.
Il me semble qu'on va employer des jeux de mots anglais, pique gallois, n'est-ce pas?
C'est ça, oui. Oui.
Enfin, madame, dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
Ah, moi j'aime le français, j'aime pas les mathématiques. Français.
Le français.
J'aime
oui.
pas les mathématiques.
Et est-ce que habituellement vous avez quelque chose pour écrire dans votre sac, c'est-à-dire?
Ah ben j'ai toujours un petit calepin, j'ai toujours. Oh, oui.
Oui.
Calepin,
Et l'instrument avec lequel vous écrivez en général, c'est quoi?
Un stylo bi,
stylo encre.
J'en ai, oui, oui. J'en ai. Je préfère ça d'ailleurs.
Oui.
Je préfère écrire avec un stylo encre qu'un stylo bi. J'écris pas très bien, alors je crois que j'écris encore. Stylo bi, c'est terrible.
Oui, comme oui. Non, mais c'est commode.
Oui, c'est commode. Pratique. Oui, c'est pratique.
C'est pratique, oui. Oui. Alors, à la suite de quelles circonstances avez-vous possédé pour la première fois un stylo à plume? C'est-à-dire à quel âge, si vous pouvez. En général, c'est un anniversaire ou première communion.
Oui, 11 ans, quoi, quelque chose comme ça.
Oui.
Mais je m'en suis certainement servi avant. Certainement.
Oh. Et quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois? C'est-à-dire
ce lettre, matin.
Ce matin, oui.
Oui, j'ai fait deux lettres.
Bon.
Ce matin.
Bon. Évidemment.
Doucement.
Vous aviez besoin d'écrire dans votre travail avant de vous marier, madame.
Ah oui.
Sans doute.
Oui, bien sûr.
Pour faire quelle sorte de choses, alors? C'est quoi?
Pour faire quelle sorte de... Dans mon travail,
oui,
vous me demandez.
Oui, oui.
Ça, il y avait pas mal de choses. Il y avait pour les clients,
oui.
Comment vous dirais-je, je ne sais pas, il y avait les comptes, il y avait...
Oui.
Des choses comme ça.
Oui.
Tout était à écrire d'ailleurs.
Vous savez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de.
Oh, je fume tout.
Il n'y a pas
beaucoup
de
cigarettes. J'aurais
dû
amener des cigarettes anglaises.
Ne vous inquiétez pas.
C'est pas
Dominique, elle est tombée.
J'ai l'impression qu'il y a une guerre de professions où il ne soit pas, à part les professions manuelles.
Manuelles,
oui.
Où il ne soit pas nécessaire de. Merci. D'avoir un porte-plume à la main. Même dans l'enseignement.
Et est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Ah oui, c'est magnifique.
Ah.
Je trouve ça formidable. Ah oui, j'écris si mal que j'admire les gens qui écrivent bien.
Et ouais. Pourquoi, alors?
Je ne sais pas, je trouve que ça pose un individu. Ah. Une très belle écriture. Vous m'avez écrit bien, j'admire.
C'est une question esthétique.
Non, pas esthétique, je trouve que ça dénote quand même un petit quelque chose. Je dois dire que je suis snobinable.
Moi, je dois avouer que j'ai très mauvaise écriture.
Ne vous inquiétez pas pour ça, on dit en français que l'écriture, c'est la science des âmes.
Oui, je tape presque toutes mes lettres à la machine. Oui. Et sans doute, il est... Également important d'avoir de l'orthographe.
Ah, très, mais vous pouvez
oui.
Même très important.
Oui. Ouais. Et pour les mêmes raisons?
Pour les mêmes raisons, je trouve que quelqu'un qui met l'orthographe facilement, c'est quand même une question d'intelligence, de je ne sais pas, moi. Ça y est pas.
Oui.
Hein. Ça dénote quand même le degré.
Oui. Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Ah, réforme? Ah, moi non, je pense que moi je le laisserai comme c'est.
Ça fait partie du patrimoine, ça aussi.
Ça fait partie du patrimoine, oui, je trouve que c'est,
oui.
C'est très bien comme c'est.
Oui.
Je vois pas ce qu'on pourrait d'ailleurs réformer.
Ah, bah si, faire l'orthographe phonétique, comme il dit.
Oh,
dit.
Non, oh. Alors, je vais chercher la plus. Non, alors là, non.
Et alors, qui de vous ou de votre mari écrit habituellement aux amis communs?
Ah, je crois que c'est moi.
Ah oui.
Quand même.
Oui. Voilà. On y est.
Jean-Paul, tu le fais tout de suite ou tu l'as couché?
Alors, qui est-ce de vous, de votre mari, madame, qui possède le meilleur orthographe?
Mon mari.
Oh.
Ah oui,
mais
c'est.
Et la plus belle écriture?
Je suis sincère, vous savez. Vous aussi.
Bon, ce sont des questions que je trouve franchement embarrassantes.
Pourquoi? Non, absolument. Moi, ça m'embarrasse absolument pas. J'aime la franchise et je suis très franche.
Oui, je ne suis pas sociologue. Je ne crois pas que je pourrais faire ce métier.
Ouais. Non, ça ne me gêne pas.
C'est un peu spécial.
Oui, mais ça ne me gêne pas de répondre.
Il faut avoir la peau d'un pachyderme.
Oui.
Et qui est-ce qui parle donc le meilleur français?
Mon mari, automatiquement.
Et l'écriture aussi? Oui. Oh.
De même. Là, il est gagnant sur toute la ligne.
Mais madame, combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
Oh, quelques-unes quand même. Hein.
Oui.
Oh, oui, parce qu'on a une très grande famille.
Ah bon?
Il y a un courrier quand même assez nombreux chez nous. Hein?
Oui, mais enfin, dire exactement combien par mois.
Ah, combien, ça, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas. Alors là, je... Ah, ma douce. On a des amis, pas mal.
Oui. Est-ce que vous conservez les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Quelquefois, j'en ai quelques-unes, oui.
Oui.
Et même de très longtemps. J'ai des lettres que j'ai gardées depuis la naissance de Jean-Paul. Donc ça fait 14 ans.
Ah oui, ce sont des lettres de...
Ben, des lettres à l'occasion d'une naissance, ah, oui, des choses comme oui, ça, oui. Choses à laquelle je tiens.
Oui. Alors, combien possédez-vous environ? Vous avez un tiroir tout plein. Parce que...
Je sais pas. Il y en a en bas, j'ai une petite cassette de
couleur. Oui.
C'est vrai.
Oui. On dit en anglais, pour les gens qui font cela, comme moi, par exemple, je ne jette jamais... des choses, nous avons une mentalité d'écureuil.
Ah bon, alors je l'ai aussi, alors. Mais c'est un bien petit écureuil, c'est très joli.
Et quand vous écrivez à des amis, madame, est-ce que vous faites un brouillon?
Non.
Mais pour les lettres officielles.
Ça m'arrive, mais quelquefois. Oui. Ou alors je la fais, mon mari supervise.
Oui. Est-ce que vous relisez toujours vos
lettres? Pas souvent.
Non. Et vous écrivez soit avec le stylo à billes ou soit
je
avec
le stylo plume. Je préfère le stylo plume. Oui. J'ai mon stylo plume. Oui, je préfère ça.
Vous n'employez pas une machine à écrire?
Du tout.
Non.
Du tout. C'est pas très correct d'ailleurs.
Oui.
Pour écrire la famille.
Ah oui,
on va inspirer, oui.
Ah oui, non, franchement, moi je fais autre chose maintenant. Hein.
Oui. Oui. Et quel type de papier hein, préférez-vous?
Comment dirais-je?
Papier
blanc. Non, il est vert ou il est blanc ou il est gris, enfin.
Oui.
Fantaisie. Pas trop fantaisie. Oh non. Oh non, pas fantaisie. Alors là, absolument pas. Non, j'ai horreur de ça. Non, j'étais en train de chercher un mot. Je voulais dire classique.
Ah.
C'est le mot que je cherchais.
C'est classique, c'est le blanc aussi.
Classique, écoute, raconte-toi l'histoire.
C'est sans rayures.
Ah, sans rien. Oui.
Et sans glisser un papier.
Ça m'arrive, moi, ça. Ah
oui,
ça
m'arrive. Les règles.
Ça m'arrive. Autrement, vous savez, c'est peut-être pas toujours très droit.
Oui. Papier à bord déchiqueté, jamais, c'est trop fantaisie.
Ah non, ça non, alors non.
Oui.
Non, c'est du papier.
Oui.
Comme ça, quoi.
Et. Si vous deviez écrire au professeur à l'école de vos enfants, oui. Est-ce que vous faites la même chose en général?
Du papier, alors là, oui. Soit ou une carte, vous savez, c'est pas les cartes de visite, mais
ah oui.
Le modèle
oui.
Au-dessus, oui. Quelque chose de très classique.
Oui,
alors, hein.
Oui.
Ça nous arrive d'ailleurs de temps en temps. Oui. J'aime mieux les voir parce qu'on explique beaucoup mieux que l'écrire, mais enfin...
Et alors, pour une lettre officielle?
Pareil. De toute façon, ça déjà un type de papier à lettres qui fait vraiment pour...
Oui.
Pour tout, quoi.
Oh, quand même.
allez-y, je vous en prie.
Bon, franchement, y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de votre mari?
Non, il est très correct.
Bon,
j'aime les questions.
Et y a-t-il des choses qui agacent votre mari dans la façon dont vous parlez-vous, madame?
Ah, ça, je sais pas.
Ah. Non, je pense non. Oh non.
Je ne l'ai jamais, il ne m'a jamais choqué, je ne pense pas l'avoir choqué depuis 16 ans qu'on est mariés.
Mais y a-t-il des choses qui vous agacent dans la façon de parler de vos enfants?
Ah oui, monsieur. Ah oui, alors là, oui.
Ah bon, bon.
Pas toujours correct. Ah. Oui. Ah. Non, ça c'est faux. C'est vrai.
Oui. C'est une question d'emploi de mots ou...
Oui, c'est une question de vocabulaire. Oui. Pas toujours,
un petit peu trop vert.
Tu as le dit coup, hein.
Oui.
Langage un petit peu vert chez ces jeunes. Un petit peu trop libre.
Oui. Alors, vous arrive-t-il de les reprendre?
Et même de taper, oui. Oui, oui.
Et qui est-ce qui les reprend le plus souvent? C'est vous ou monsieur?
Ben, moi, je suis plus souvent en contact avec
Oui, évidemment, oui.
Mari.
Oui.
Non, mon mari, il faut vraiment que les enfants le poussent à bout pour qu'ils tapent. Moi, je taperai plus facilement, hein.
Oui.
Ils ont grand besoin d'être
frais,
ces jeunes.
Oui. Et vos parents, madame, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez?
Oh! Et oui, monsieur, j'ai reçu ma dernière gifle, j'avais 21 ans.
Oh!
Ah oui, avant de me marier, j'étais à 4 jours de me marier parce que je répondais.
Oh!
Ah oui, ça on était plus serré que ça. Ah si, ça.
Alors, c'était votre père ou votre mère?
Ma mère.
Oh oui.
Voilà.
Ah.
Même encore maintenant, monsieur, je ne réponds pas à mes parents. C'est vrai, j'ai un soif. Hein? Bon.
Alors?
Ça, c'est une question d'éducation, vous
oui.
savez.
Il prenait des sanctions quelquefois, alors.
Ça arrivait, oui.
Oui. Oui.
Très souvent, même.
Ah.
Non, c'est vrai, j'étais serré, ça.
C'est ce qu'il faut.
Mais dis donc, petit garçon.
Je vais fermer la machine.